Après notre avant-midi au Powwow, nous retournons près du lac écouter la parole de Lucien Vabononik, un des élus du conseil de banque du lac Simon, qui nous raconte le passé, mais aussi le futur de sa communauté.
Je m'appelle Lucien Vabononik. Je suis de la nation Anishinaabe, qui est le nom de mon peuple, de ma nation. On nous appelle à l'occasion les Algonquins, mais nous, on préfère le terme Anishinaabe, qui veut dire les vrais hommes ou les premiers hommes. Voilà, ça c'est ici, c'est ma communauté. Lac Simon a été créé dans les années 60. Par plusieurs de nos membres, mais qui étaient peu nombreux à l'époque. Je pense à peu près une trentaine de personnes qui résidaient plus ou moins de façon permanente ici. C'est tranquillement et avec le temps, ça a pris quelques années pour que ça prenne de l'ampleur et la grandeur que ça a maintenant. Donc maintenant, on a plus ou moins 2300 âmes qui vivent dans la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté, dans les différentes villes avoisinantes. Donc, la communauté ici, c'est une population qui est très jeune. La moyenne d'âge est à peu près 30-35 ans, qui représente quand même un bon pourcentage de notre population. Quand même, ici, nos gens parlent la langue maternelle, l'Anishinaabe, mais l'éducation se fait en français. Puis, il y en a qui sont anglophones aussi, comme moi. Moi, je parle quatre langues. Donc,
français, parle, anglais.
Oui, le premier, c'est sûr, c'est ma langue maternelle, Anishinaabe, le français, l'anglais, puis l'Atikamekw un peu, que je ne maîtrise pas nécessairement 100%, mais je la comprends quand ça ne parle pas trop vite. Là. Fait que c'est, je ne la maîtrise pas nécessairement 100%, mais je comprends les gens quand ils parlent. C'est ça pour moi. Je suis né pas nécessairement dans la communauté ici. Moi, je suis né où mes parents ont grandi, en quelque sorte. La petite ville de Sonataire, qui est au nord d'ici, près de 45 km. Donc, mon père venait pas nécessairement de la communauté, mais du territoire, ma mère aussi.
Vous dites territoire, ça veut dire quoi exactement?
En forêt.
Okay.
En territoire, c'est pour nous, c'est la forêt, les lacs et les rivières, bien sûr. Mon père travaillait dans un moulin à scie, une petite moulin à scie qui longeait le chemin de fer, le CN. Il travaillait quelques années là. J'ai grandi un peu en territoire, mais aussi j'ai été pensionné aussi. Fait que je suis un des survivants, les chanceux. Parmi les chanceux, je dirais peut-être, dans mon cas, mais il y a d'autres personnes de la communauté ici, au lac Simon, mm-hmm. qui ont passé par là. Il y en a qui ont resté plus longtemps, qui ont été plus marqués que moi là, par rapport à ces événements-là.
Dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec les enfants retrouvés.
Absolument. Puis nous, de notre côté, je suis aussi membre élu du conseil ici au Lac-Simon. Mon travail, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de défis. Il y en a qui sont énormes, notamment celui-là qu'on va passer au travers là, à cause des enfants qui ont été retrouvés dans l'ouest là, du pays. Mais on sait qu'il y en a aussi au Québec. On sait qu'il y en a. Les gens ont peut-être de la difficulté à croire, surtout les Québécois ou les Canadiens, mais on le voit de plus en plus. Ce n'est pas juste dans l'ouest, là, c'est partout au pays. Ça.
Mais récemment, dans les médias, les politiciens disaient que ce n'est pas arrivé au Québec.
Ils se trompent, ils connaissent mal leur histoire.
Ouais, c'est ce que je pense.
Ou bien ils ignorent l'histoire des Premières Nations, encore une fois. Là, c'est malheureux. Là, mais c'est le gouvernement qui est en place continue à nier là, qu'il y a un racisme systémique. Mm-hmm. Je ne sais pas quoi ça va prendre pour leur ouvrir les yeux, là, mais... Mm-hmm. Ne pas reconnaître ça, c'est nier cette existence-là, nier le passé, puis nier l'existence de nos enfants qui ont passé par là. C'est ça les impacts là, Puis c'est vraiment difficile à vivre là, pour plusieurs de nos familles, de nos communautés, de nos nations là, qui vivent ici. Là.
Mais vous pensez que dans le coin ici, sur le territoire, ce que vous appelez territoire, on va en trouver?
Possible, c'est pas exclu. On entend des histoires de certaines familles qui commencent à parler, qui gardent ça pour eux. Hein. C'était pas parce qu'ils l'ont déjà raconté, mais ils n'étaient pas crus. Beaucoup dénoncent ça. Donc,
ils racontaient quoi? Juste la disparition des enfants?
Ils parlaient, par exemple, que leur soeur, leur frère, leur oncle n'était pas revenu. Il ne s'est jamais revenu. Il n'a pas eu de nouvelles. Personne ne leur a annoncé quoi que ce soit. Les représentants religieux ou fédéraux là, qui s'occupaient de ces pensionnats-là. On n'a jamais eu de nouvelles. Puis ça remonte en surface de plus en plus. Là. Puis c'est difficile là, parce que c'est comme des plaies qu'on ouvre. Donc, ça a des conséquences. C'est pas juste une génération, là, mais c'est intergénérationnel. Donc, c'est pas une fois. Là, c'est pas quelque chose. C'est pas comme une coupure là, qui ça laisse peu de traces. Là, les blessures de l'âme sont beaucoup plus importantes que les blessures corporelles.
Et vous pensez que, en fait, c'est nécessaire que ça remonte à la surface pour pouvoir guérir, notamment?
Absolument. Vous savez, c'est une nécessité. Pour plusieurs raisons. Pour la guérison, bien sûr, mais aussi pour corriger. Vraiment remédier, puis trouver des solutions avec nous. Et pas nous ignorer, là, comme ça a été le cas au cours de la dernière centaine d'années. Là, ça a toujours été le cas. Il y a eu des belles paroles de certains politiciens, mais très peu d'action.
Rien de concret.
Presque rien. Donc, on s'attend à ce que cette fois-ci, je pense que ça va être les gens qui vont faire la différence. C'est pas nécessairement...
Le gouvernement.
Le gouvernement.
C'est la conscience publique, je crois. C'est les
absolument,
gens,
ouais. Absolument. Nous, c'est vraiment ça. Vous savez, l'histoire qu'on nous raconte dans la petite école, c'est pas du tout la réalité. C'est une histoire qui, pour finir, là, de héros canadiens ou québécois ou américains, mais très peu qu'on mentionne les héros des Premières Nations qui ont participé à la création du pays.
Bien sûr.
Fait que là, c'est comme minimisé, ignoré très souvent. Donc, ça, je pense que c'est appelé à changer. Ça doit changer.
Ça doit changer. Puis c'est aussi un modèle pour les jeunes. S'ils n'ont pas d'identification, c'est qui les repères, en fait, pour vos jeunes, à vous?
Absolument. C'est là qu'est d'où l'importance de reconnaître la place des Premières Nations, là, comme parmi les premiers fondateurs, finalement. Parce que sans eux, il n'y aurait rien. Sans les médications, sans l'aide qu'on leur a apportée, les premiers arrivants, il n'y a personne qui aurait survécu ici au pays. Là. Je ne connaissais pas là, les grands froids ici, de moins 30 et moins 20, pour plusieurs mois. Ils ne connaissaient pas ça. Il n'y a personne qui aurait survécu. Puis, on les a aidés. On les a, comme un enfant, aidés à grandir, puis à prendre leur place. C'est le partage que nos Premières Nations ont fait ici. Là. Ça, c'est minimisé. Beaucoup. Il y en a qui pensent qu'on n'avait rien, mais on était des cultivateurs aussi. Hein, vous savez, il y a plusieurs choses qui n'existaient pas. On croit, puis on le sait, qu'on a aidé l'Europe à survivre à la famine. On a juste à penser, puis parler des patates, de certains de ces légumes-là qui ont été emmenés
en Europe.
Dans les vieux pays, oui. Donc, on a fait notre part, les Premières Nations. C'est pas évident non plus de le dire de cette façon-là, parce que souvent, ce qui est dit ou c'est critiqué ou questionné, bien, y a-t-il des preuves? Eh bien oui, il y a des preuves. Il y a des preuves de ça. Il y a des historiens, il y a des gens qui ont raconté, qui ont écrit des choses. Donc, les anciens, les vieux pays n'avaient pas nécessairement autant de cultivation qu'aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées.
Absolument. D'autres pays, d'autres nations, d'autres peuples à travers les autres pays ont mené... les Européens avoir de l'aide, finalement, parce qu'on parle souvent, on entend, en tout cas, il y a eu des guerres, oui, en Europe, mais ici, il n'y avait pas tant que ça. Il y a eu des escarmouches, il y a eu des petits, vous savez, des petites guerres, qu'on pourrait dire, à petite échelle, mais c'est pas vrai qu'il y a eu des grandes, grandes guerres là, parmi les premiers peuples. On était des peuples... on va dire, diplomate, on pourrait dire. D'ailleurs, on a amené la diplomatie en Angleterre aussi. le peuple Mohawk a amené cette diplomatie-là, entre autres, qu'on avait déjà au pays, à travers le pays ici. Donc, les décisions se prenaient souvent par consensus. Donc, c'est une façon de faire qui était différente avec les rois et tout ça. Là. Mais ça, c'est le côté qu'on a amené.
Qui est énorme.
Au pays,
c'est énorme.
Au pays. Oui, oui, oui. C'est ça, les gens, comme je vous dis, minimisent ces éléments-là.
Mais ils minimisent souvent parce que le grand public n'est pas vraiment au courant. Puis c'est plutôt, ils pêchent par ignorance.
Mais écoutez, on les a nourris de cette façon-là.
Oui.
Je vous parlais de la petite école. Vous savez, qui contrôle les enseignements, qui contrôle le contenu, la matière, c'est le gouvernement,
exactement,
finalement, qui oriente cette éducation-là. Donc, c'est le gouvernement qui doit en partie corriger, mais aussi avec l'aide des citoyens ordinaires, comme vous et moi, qui peuvent faire ces changements-là. Des petits changements vont avoir l'effet de domino, on espère.
Tout à fait.
Mais ça, c'est des choses qui prennent un certain temps, mais l'éducation est la clé de tout ça.
Puis tout à l'heure, vous parlez de partage. J'aimerais beaucoup vous entendre parler sur la place des mines sur le territoire et comment, en fait, faire une meilleure répartition de cette richesse-là qui est la vôtre au départ.
Oui. Écoutez, c'est pas évident. C'est pas facile. Vous savez, comme je vous dis, l'éducation qui a été donnée au cours des dernières 100 ans, 200 ans... Le gouvernement a toujours dit que ça leur appartenait, c'est un public, etc. C'est le genre de langage
qu'on entend
qu'ont
souvent.
Toujours eux et qu'ils ont encore aujourd'hui. Mais avec les derniers jugements de la Cour suprême, il y en a eu plusieurs, en faveur de nos Premières Nations, de plus en plus. Puis je pense que c'est une tendance qui va se maintenir, heureusement. Puis ça, ça aide beaucoup à faire valoir nos intérêts, nos droits, faire respecter nos droits sur le territoire. Parce que nous, la nation Anishinaabe n'a jamais cédé un pouce de son territoire, n'a jamais cédé un pouce de ses droits, rien.
Ça leur a été pris.
Ça a été, je dirais plutôt volé. Volé dans plusieurs, au sens large du terme, là, au sens propre même. Ça s'est appelé à changer aussi avec le temps.
Et quand vous dites territoire, juste pour comprendre, ça représente quoi en termes de grandeur?
Oh, c'est assez large, la superficie. Ça peut représenter probablement un tiers du Québec. Puis ça dépasse le Québec, ça va jusqu'en Ontario, ça dépasse le fleuve Saint-Laurent en partie. Il y en a qui ne seraient pas nécessairement d'accord avec ce que je dis là, mais mes nations voisines, mes frères et sœurs de d'autres nations, mais jusqu'à preuve du contraire, parce que nous, on a fait nos recherches quand même. C'est l'indication qu'on a des recherches-là. Oui, c'est une question intéressante, ça. Puis je peux dire la réponse peut être complexe. Je vous mentionnais tantôt la question des droits qui sont de plus en plus reconnus par la Cour suprême du pays, celui du Canada, dans notre cas. Puis ces droits-là, c'est en lien avec le territoire. L'usufruit, l'usage, peu importe comment on l'appelle là, maintenant. Là, nous, on a démontré... quand même, sans seulement passer à la cour, notre occupation du territoire. Mais, vous savez, le gouvernement demande toujours des preuves. Même si ça ne leur appartient pas, ils demandent quand même des preuves. Nous, on fait quand même l'exercice parce que plusieurs nations au Québec, dont nos nations voisines, les Cris que vous mentionnez, là, sont ceux du Nord. Mais les Cris, je vais vous dire, ils ont pris une partie du territoire Anishinaabe, du territoire côté Nord. C'est quand même une bonne portion du territoire noir qu'ils ont pris sans qu'on ait eu l'occasion de vraiment en parler entre nous, nos deux nations, là, vraiment être très clair là-dessus. Et on va dire qu'il y a un chevauchement territorial, mais je dirais même plus là, qu'il y a une chicane territoriale. C'est pas une guerre en soi, comme on l'entend, mais c'est plutôt au niveau de l'occupation. À cause qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont reçu beaucoup d'aide, d'Hydro-Québec, mais aussi des deux gouvernements fédéral et provincial. On va dire qu'il y a une certaine arrogance qu'on voit et qu'on constate. Ils ignorent les cris de leurs voisins. Il y a un manque de respect là, suite à cette entente-là. Parce que Nous, on n'a pas signé cette entente-là. On n'en bénéficie pas du tout. C'est vraiment, on ne reçoit absolument mm-hmm. rien dans ça. Mais les conséquences, les impacts qu'on a eus de cette entente-là sont négatifs, dans plusieurs sens, au sens propre même. Au niveau économique, au niveau social, la non-reconnaissance de nos gens, de leurs droits en territoire conventionné. Là. Par exemple, ici au Lac-Simon, on est dans la catégorie 3 des terres conventionnées.
Qui veut dire quoi exactement?
À partir du 49e parallèle, qui est près de la Belle-sur-Quivion, c'est là que part la ligne là, du troisième catégorie des terres, parce qu'il y a différentes catégories de terres quand il a été négocié. C'est, on va dire, ce traité moderne-là, Convention Lambert-James, avec les CRI, le fédéral et la province, sont signés tous pour dire, OK, les CRI maintenant cèdent, abandonnent et donnent tout leur accès aux droits sur leur territoire ancestral. En échange de ABCD, qu'on mm-hmm. connaît maintenant, les différentes aides ou formes là, qu'ils ont maintenant. Mm-hmm. Ça les a beaucoup aidés, tant mieux pour eux, là. Mais pour nous, ça a des conséquences mm-hmm. négatives. Là.
Comme ils ont, en échange, ils ont eu quoi? Des institutions? Juste un exemple.
Ben, au niveau économique, par exemple, il y a eu, comment on appelle ça, des préjugés positifs. Je ne me souviens plus le terme exact.
Discrimination positive.
Exactement, merci. Voilà, je cherche le terme. Il y a eu beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau économique, au niveau contrat, avantages sociaux, toutes sortes d'avantages au niveau scolaire. Par exemple, pour se bâtir un campement sur le territoire, ils ont eu de l'aide pour ça, pour le bâtir, mais aussi au niveau du matériel. Mm-hmm. Ils ont aussi des sous pour occuper le territoire, parce que ça coûte quand même des sous maintenant, étant donné que la trappe, les revenus de la trappe sont presque nuls maintenant. Ils ont de l'aide pour ça maintenant, mm-hmm. Chaque mois, je pense, ils reçoivent un montant, ou tous les trois mois.
Ce qui n'est pas le cas pour vous?
Non, on ne reçoit absolument rien, là. Non, nous, on ne reçoit absolument rien, puis on n'a jamais eu d'aide du fédéral ni du gouvernement. D'ailleurs, vous savez, le fédéral devait protéger les... parce qu'ils sont fiduciaires. Ils sont fiduciaires des peuples autochtones au pays. Donc, ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait l'exercice de protéger nos droits quand il y a eu cette entente-là signée avec les trois parties.
C'était signé en quelle année, cette entente?
Pardon?
C'était en quelle année, l'entente?
En 1975-1976, ça a été signé. Mm-hmm. Ouais, avec les CRI.
C'est un moment où on arrêtait les pensionnats, plus ou moins, là, non?
Ça a continué un peu, les pensionnats, quelques années. Je pense que le dernier, c'est en 2009, me semble, de mémoire, je dis ça. Là.
Oui,
le dernier pensionnat qui a été fermé, c'est, me semble, c'est en 2009. Mais ça reste à valider pour la date. Mais moi, je suis sorti du pensionnat, par exemple, en 71 peut-être. J'avais probablement 8 ans quand je suis sorti de... Non, 7 ans, excusez-moi, 7 ans, parce que j'ai fait un an aux petites écoles de la sanitaire. Donc, j'ai été dans les familles d'accueil de la sanitaire avant de rester dans la communauté ici.
Donc, vous êtes parti à l'âge de 4 ans, c'est ça? De 4 à 8?
Probablement 4 ans ou 5 ans. Dans ces anges-là, oui.
Hier, on a rencontré une coucoune qui nous racontait qu'il y avait, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au non-respect de vos droits, elle racontait que lorsqu'on venait chercher les enfants, on promettait aux parents un chèque, ils prenaient les enfants, puis le chèque ne venait jamais. Est-ce que c'est une histoire...
Oui, on a entendu ça souvent. C'est les promesses qui étaient données aux familles pour les aider à subvenir à leurs besoins. Non, il n'y a jamais eu d'aide... En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler. Ce qu'on appelle les allocations familiales, maintenant, ça ne date pas de si longtemps que ça. Peut-être 25 ans, 30 ans. Avant, on n'avait absolument rien. Ce qu'on appelle la sécurité du revenu, bien, le bien-être social, là, on ne recevait pas de ça. Mon père, lui, dans les années 70, il n'y avait pas de sécurité du revenu. Il n'y avait rien. Pas d'aide du gouvernement, pas un cent. Mais il travaillait, par exemple, dans les moulins l'été, dans la saison estivale. Il s'en allait travailler là pour subvenir à nos besoins parce que la trappe était finie en été. Ce n'était pas rentable. La trappe, c'était fait seulement en hiver. Donc, en été, il fallait travailler, il fallait subvenir aux besoins de la famille. Donc, mon père a fait ça, comme plusieurs autres, d'ailleurs. Mais donc, il n'avait pas la chance de travailler parce qu'il n'avait pas assez d'emploi là, à l'époque. Là.
Mm-hmm.
Donc, il y en a des familles qui ont beaucoup plus de misère. Il y en a qui ont sombré dans l'alcoolisme, les dépendances. Les enfants, ils revenaient à la maison et on n'était plus habitués nécessairement à recevoir les enfants parce qu'ils étaient partis pour un certain laps de temps. Ils ne les voyaient pas pour plusieurs mois, pour certains, plusieurs années.
Mm-hmm.
Donc, ça a des conséquences sur les familles directement. Quand ils revenaient à la maison, ils ne comprenaient plus
la langue.
La langue, mm-hmm. Non, ils ne comprenaient plus. Ils n'avaient pas le droit de parler notre langue maternelle au pensionnat.
Puis vous, pendant votre séjour, vous, dans le pensionnat, vous avez perdu la langue ou?
Heureusement pour moi, je ne suis pas resté aussi longtemps que certains. Je suis resté 2 ans. Puis moi, quand je suis parti de la maison, je ne comprenais pas un mot en français ni en anglais. Pas un mot. Je parlais juste l'anishinaabe. Puis mes soeurs, mes frères, c'était comme ça aussi. Donc, on parlait juste entre nous. On n'avait pas grand monde autour non plus. C'est pas comme les villes. Là. On était en territoire. On était séparés les uns les autres. On était loin. Puis la seule langue qu'on connaissait, bien, c'était la langue anishinaabe, la langue maternelle. Puis à l'école, quand j'étais au pensionnat, bien, effectivement, on m'a puni souvent là, pour avoir parlé avec mon petit frère parce que j'étais avec mon petit frère qui est décédé maintenant, Maurice. On était deux, puis on a subi des choses-là. Là. C'est pas nécessairement évident, là, mais à tout le moins, c'était très difficile. Là. Ouais.
Ouais. C'est tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on va découvrir de plus en plus. Là. Ça va être, on espère que ça va être un éveil des consciences à l'échelle nationale et internationale aussi.
Ben, comme je vous dis, c'est les gens ordinaires qui vont faire la différence, mmh. Je pense, moi. Les médias, ils ont un rôle à jouer, c'est certain, en termes de valider les informations, d'aller voir là, sur le terrain, puis de pas juste passer 10 secondes. Là, puis... Non, je pense que ça prend vraiment peut-être des documentaires pour justement montrer visuellement,
ouais, ouais.
Puis que les gens voient par eux-mêmes là, qu'est-ce qui se passe là, mm-hmm. Sur le terrain, mm-hmm. Réellement. Là, mm-hmm. Que font les gouvernements?
Mm-hmm.
Que cachent les gouvernements, mm-hmm. Quand il est question des Premières Nations? Mm-hmm. Hein, parce qu'ils disent des belles choses en public, ils annoncent des gros montants, ça peut sembler astronomique. Mm-hmm. Mais si on sépare ça, les compensations, les pertes culturelles, c'est pas calculable.
La dépossession, la déshumanisation,
exactement,
la colonisation.
C'est... Comment on peut calculer ça?
Non, ça n'a pas de prix, ça.
C'est les gens ne semblent pas... bien comprendre les impacts que ça a sur l'être humain. Pour nous, on est des êtres humains aussi. Là.
Tout c'est à pas... fait. C'est dépossédé de son territoire, de sa culture, de sa langue, de son identité, de tout. Mais vous savez, quand on parle, de ce projet, en tout cas, je parle des gens autour de moi et je leur dis la loi sur les Indiens, par exemple, qui serait la première chose à corriger. La plupart ne sont même pas au courant.
Non. Non,
ils ne savent même pas c'est quoi les clauses.
Non, absolument. C'est... Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Puis... d'en parler parce que les gens ne connaissent presque rien de cette loi-là, qui est encore en cours. On est en 2021, là, l'année 2021, puis c'est encore là.
C'est une aberration quand on la lit, c'est une aberration.
C'est exactement ça, puis les gens ne semblent pas croire à ça. Puis même si on leur dit, on leur montre certains extraits de la loi sur les Indiens, ben non, c'est quelqu'un qui a inventé ça. Puis...
Pourriez-vous, juste pour que les gens comprennent, dire, selon vous, les pires clauses qui sont dans la loi?
Bien, écoutez, la non-reconnaissance, par exemple, de nos cultures. Alors, c'est comme généraliser cette loi-là mur à mur. C'est une loi mur à mur. Par exemple, les femmes qui perdent leur droit, leur statut d'autochtone au pays à cause que le mari est non-autochtone, par exemple. Ils perdent leur statut d'autochtone.
Absolument.
Ça, c'est vraiment une aberration. Ça se fait pas dans d'autres pays, mais seulement au Canada. Au Québec, on semble être à l'aise avec ça.
Parce que
les gouvernements semblent se satisfaire de ça.
Et c'est très paternaliste et contradictoire, parce que dans la société, la femme a beaucoup de pouvoir, il y a eu le féminisme, il faut que la femme soit libre. Puis là, dans votre cas, elle est totalement dépossédée en fait, de ses droits, c'est le mari qui elle veut.
C'est là qu'est toute l'aberration, toute l'injustice, même pour leurs enfants, ces femmes-là, ces couples-là qu'on leur donne un numéro. C'est comme les nazis ont fait aux Juifs. On leur donne un numéro, ben, c'est ça. Les Autochtones, on est numérotés. Si j'ai pas mon numéro, ben, j'ai pas droit à aucun service. Là. Je suis personne.
Puis ils veulent pas, nommer et dire que c'est vraiment un génocide culturel.
Mais écoutez, je pense que c'est plus que ça. On va dire génocide tout court. C'est, pour moi, c'est comme ça. C'est du génocide. Il y a eu de l'Holocauste, il y en a eu aussi au pays. C'est pas nécessairement très connu ou méconnu même. Donc, oui, ça existait. On commence à s'apercevoir ce qui se passe au pays avec les enfants qu'on découvre. Mais vous savez, il y a eu un temps où le continent nord-américain, je pense qu'on était probablement 40 à 50 millions d'habitants avant les premiers contacts. Puis aujourd'hui, on n'est qu'un petit reflet de ce nombre-là. Imaginez ce qui s'est passé. Les premières guerres bactériologiques, c'est-tu qui sont passées au pays, là. Puis le continent nord-américain au complet. Là.
Oui, la pandémie.
On a connu les effets de la pandémie. La petite vérole qui a été donnée avec des couvertures à des communautés à l'époque, là, ça date de loin, mais quand même, nous, on s'en souvient. Donc, la réaction qu'on a eue dans plusieurs de nos communautés au pays. Par rapport à la COVID-19, par exemple, démontre que notre mémoire collective est encore là, est encore vivante. Donc, on se souvient de tout ça, là.
Ah oui, c'est quoi l'exemple que vous pouvez donner?
Bien, écoutez, par exemple, on peut parler de la grippe espagnole. Le dernier, là, qu'on m'a raconté, les gens mouraient dans leur maison. Ils n'étaient plus capables de subvenir à leurs propres besoins. C'était pas nécessairement des maisons, mais c'était plutôt des tentes ou ce genre de trucs-là. Puis il y en a qui s'en allaient en territoire puis ils ne revenaient plus jamais. On ne les voyait pas. Donc le territoire se vidait de ces personnes-là. Plusieurs, et un grand territoire. Notamment quand le chemin de fer est arrivé vers le Tuc, Robert Wall, ces coins-là, le Sonter, tout le trajet du chemin de fer qui a été fait. Quand les soldats sont arrivés, ils ont emmené avec eux la maladie. C'est à partir de ces petits villages-là que nos membres, nos familles fréquentaient à cause qu'ils vendaient leur fourrure à la baie du Tson, ont commencé à transporter la maladie vers leur famille. Puis ces familles-là ne revenaient pas. Ils passaient un hiver puis on ne les revoyait plus. Là. Fait qu'on les découvrait seulement en saison suivante quand les eaux étaient dégelées. Puis là, on pouvait circuler sur les lacs et les rivières. On les trouvait à leur site de campement. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis il n'y avait pas nécessairement des cimetières publics comme on connaît aujourd'hui. C'était pas ça du tout. Là. Les gens qui mouraient en territoire étaient enterrés en territoire. C'est pour ça que quand on parle de protéger le territoire est sacré. C'est nos gens qui vivent et qui sont enterrés dans ces territoires-là. C'est pas dans les villes, les villages ou les réserves qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont enterrés dans les territoires. Puis ça, c'est très méconnu. C'est les gens... Je pense qu'ils ne conçoivent pas ou ne comprennent pas cette réalité-là qui date, oui, d'une autre époque, mais qui doit être connue.
Et honorée et respectée, bien sûr.
Ben, écoutez, je peux vous dire, moi, avec assurance, là, que quand il y a des opérations forestières, des coupes forestières, des récoltes forestières, il y a des endroits qui sont complètement détruits. Des endroits de sépulture, je vous parle. Là. Sans connaissance de cause, l'industrie forestière va aller faire des coupes forestières. Il y a eu beaucoup, dans les dernières années, là, les gens n'étaient pas écoutés. Nos gens n'étaient pas écoutés.
Qui leur disait que ce site-là...
Qui leur disait, ouais. Oui. Puis je peux vous dire qu'il y a eu des batailles juridiques à cet effet-là. En Ontario, il y en a eu, dans l'Ouest, il y en a eu. Ici, il y en a un petit peu moins au Québec, parce que nous, notre façon de faire, c'était vraiment... On n'avait pas nécessairement de droit d'avocat non plus, là, à une certaine époque, là. Donc, il n'y a personne qui nous aidait. Il fallait faire nous-mêmes toutes les choses. Par exemple, bloquer le chemin. Les gens n'aimaient pas ça. On comprend ça. Mais pour défendre ces endroits-là qui sont sacrés, écoutez, quels moyens avions-nous?
Tout à fait.
Donc, c'est la seule façon pour nous de
protéger la mémoire.
De protéger ces endroits-là sacrés. Puis c'est pour ça qu'on dit que le territoire est sacré. Là. Il y a des sites qui ne sont pas encore connus, mal connus. Par exemple, je vais vous donner ça ne fait pas si longtemps, là. Ça doit peut-être moins de 10 ans maintenant. Il y a eu un habitant, là, un site à Sainte-Terre. Il y a un site au lac Parent qu'on appelle, un endroit où ce que les familles du coin enterraient leurs morts. C'est un cimetière commun qu'on pourrait appeler, qui date de plusieurs générations. Et un monsieur, là, du jour au lendemain, il a eu l'autorisation de la ville de bâtir sa maison. Puis, le monsieur, ben, il ne savait pas qu'il était, il s'était bâti à côté d'un cimetière. Non seulement ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait agrandir son territoire sans permission de la ville, ni nous consulter, nous, les communautés avoisinantes. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un décès de cette famille-là, puis les gens ont été enterrés le décédé de cet endroit-là, la personne qui est décédée à cet endroit-là. Puis monsieur, il appelle la police, il y a des autochtones, là, des Indiens qui nous appelaient, là, on nous appelle encore comme ça, des Indiens. Puis ils disent, ben, ils occupent mon terrain, je n'ai pas donné aucune autorisation. Mais pourtant, la famille venait enterrer la personne décédée dans cet endroit-là, cimetière et familial. Donc, c'est des situations comme ça qui arrivent, qui
au quotidien. Arrivé,
puis qui, je pense, qui continuent d'arriver dans certains cas. Peut-être de moins en moins, mais celui-là, il ne date pas d'hier. Fait qu'on a encore ça très frais dans nos mémoires. Puis ça, c'est des choses que des gens, on rencontre ces situations-là.
Oui, puis ça, les gens ne sont pas conscients, mais moi, j'adore quand vous utilisez le mot « territoire ». Et on entend souvent parler des réserves comme quelque chose de très négatif. On dit que c'est comme des prisons à ciel ouvert. Mm-hmm. Les gens se sont enclavés. Qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que ça devrait disparaître? Est-ce que...
Mais écoutez, si c'était appelé à disparaître, on enlèverait juste le terme réserve. Mais les gens resteraient là quand même parce qu'ils sont chez eux.
Mm-hmm.
Avant que ça soit appelé réserve ici, c'était... le territoire ancestral de la nation Anishinaabe.
Donc, ce n'est pas le gouvernement nécessairement qui a délimité cet espace ici?
Ben, écoutez, oui, c'est eux qui ont délimité ça. Ce n'est pas nous. On n'a pas participé à ça. Par contre, on était déjà ici avant cette création-là.
OK. Je comprends.
C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Puis, ça fait des millénaires qu'on est ici. Là. Mm-hmm. Fait que, on était ici avant le Québec, on était ici avant le Canada, mm-hmm. avant mm-hmm. la Confédération mm-hmm. canadienne, mm-hmm. avant la création des États-Unis. On était mm-hmm. ici. Donc, pour nous, en tout cas pour moi, réserve, oui, ça a une connotation négative en soi, mais avant que ça que ce titre-là de réserve, le territoire était déjà là.
Mm-hmm.
Puis ce que ça a fait aussi, ça c'est mon opinion, par exemple, ça nous a aidés à être unis.
À rester entre vous et...
Entre mm-hmm. nos familles, on a eu un lieu où ce qu'on était comme... entre guillemets, protégé mm-hmm. hein, dans un certain sens, où on a pu continuer à parler notre langue avec nos enfants, dont on s'est retrouvés, puis faire revivre la langue puis la culture.
Mm-hmm.
Ça nous a aidé un petit peu, dans une certaine mesure... Là,
à survivre.
À survivre, mm-hmm. absolument, c'est ça, oui. Mais si on était isolé dans le territoire, peut-être que ça aurait été différent parce que le public, en général, n'aurait pas su ce qui se passait mm-hmm. sur le territoire. On a été ignoré encore une fois, comme c'était le cas il y a bien des années, mais ça, comme je vous disais tantôt, c'est appelé à changer de mm-hmm. plus en plus. Là.
D'ailleurs, on ne dit plus réserve aujourd'hui, on dit communauté.
Absolument. Mm-hmm. Puis là, le titre a changé, vous avez raison. Moi, j'aime mieux appeler ça communauté. Au village, aux communautés. Mm-hmm. Ouais. Comme ça aurait dû l'être, d'ailleurs.
Moi, quand j'ai rencontré Jacques, votre neveu, on parlait... Moi, je viens d'un autre continent, évidemment de l'Europe. J'ai connu la guerre, j'ai été exilée. Je suis arrivée ici, je me suis enracinée à nouveau.
Mm-hmm.
Mais j'ai toujours cette espèce de sentiment de... un peu de nostalgie du pays, de l'enfance, que j'ai perdu un peu de force. Et donc, je parlais à Jacques, il me dit, mais toi, tu as pu t'enraciner ici, mais moi, je me sens comme exilée chez moi parce qu'on m'a arraché ce territoire. Mm. J'ai trouvé que ça m'a frappé, cette phrase-là.
Eh bien, je pense que monsieur a raison de s'exprimer ici, c'est son sentiment. Ben, écoutez, ce sentiment-là, nous, je pense pour plusieurs de nos membres ici, on peut dire que c'est partagé dans une certaine mesure. Parce que on continue à avoir cette mentalité de colonialisme avec les différents gouvernements qui passent au pouvoir au pays ou même ici au Québec. Dernièrement, j'ai entendu un ministre en public là, dire ça. Nous avons envahi ce territoire. Il semble être très fier de ça. Là. Mais c'est de l'arrogance, c'est de l'ignorance. Puis c'est actuel. Là, ça fait un mois de ça. Là, puis monsieur, il semble être très fier de ça. Mais c'est triste quand même d'entendre ça encore aujourd'hui. Puis c'était un endroit quand même, une annonce. Public. Donc, lui, il y avait des médias dans ça, puis il disait ça sans gêne. Donc, ça, c'est le gouvernement de la CAQ là, que je vous parle actuellement au Québec. Puis, c'est ça qu'on est appelé
à changer.
À changer, mais à combattre nous, les Premières Nations, là, tous les jours. Là. C'est pas évident. C'est fatigant, on aimerait parler d'harmonie, on aimerait parler de partage, de respect les uns des autres. Mais non, il y en a qui... le nationalisme négatif, si on pourrait l'appeler comme ça, ça existe au Québec. Ça, c'est pas... Je pense pas qu'il y a pas quelque chose.
On veut pas le reconnaître, mais oui, c'est...
Non, c'est...
C'est la grande contradiction du Québec qui veut sa nation, qui se sent colonisé, mais qui, en même temps, ne veut pas admettre qu'il est aussi dans la posture du colonisateur par rapport aux Premières Nations.
Absolument. Puis ça, c'est pas... c'est incompréhensible quant à moi, là, mais... ils font le même traitement qu'aux Premières Nations ici... qu'ils ont eu dans le passé.
Pourtant, historiquement, on dit toujours qu'un peuple qui a souffert et qui a été colonisé, il devrait être un peu plus à l'écoute, plus de compassion, mais il paraît que c'est toujours malheureusement la logique du maître et de l'esclave et du bourreau et de la victime. On reproduit sur l'autre ce qu'on nous a fait subir.
C'est exactement ça, c'est la reproduction de ce qu'on a vécu, qu'on fait subir aux prochaines générations. Mais vous savez, au niveau des Premières Nations, au pays, il y a cette situation se reproduit aussi dans nos communautés. On nous a fait vivre tellement de choses que nous-mêmes, on s'auto-détruit. Par plusieurs choses, la dépendance, on peut les nommer, il y a une panoplie de listes, là. Mais quand même, de plus en plus, il y a un réveil culturel. La fierté revient graduellement. Il y a des gens qui ont gardé et maintenu leur langue et pratiqué leur activité traditionnelle. Ça, c'est une bonne chose. Puis,
est-ce que c'est la solution, selon vous?
Moi, je crois que oui. C'est la base du retour là, de notre identité là, pour passer à travers les prochaines décennies. Là. Vous savez, le colonialisme, c'est pas nécessairement positif pour nous.
C'est jamais positif.
Ça n'a jamais
été positif pour personne.
Non, je ne crois pas, non, c'est ça. Mais tout le moins, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qu'on subit et qu'on vit encore au pays. Mais on est résilient, on réussit à passer à travers. Aujourd'hui, c'est une activité culturelle traditionnelle. On a notre journée de power aussi au Lac-Simon. C'est ça, c'est le genre de retour que notre identité, notre culture, qui refait surface, là, qui revient en force même. Et ça, c'est qui est très intéressant pour l'avenir.
Et c'est le début de la guérison, si je comprends bien.
On peut l'appeler guérison, effectivement, mais il y a tellement de travail à faire, ce n'est que le début. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Puis pour s'entraider, se respecter entre nous, il y a beaucoup, beaucoup de défis encore, là.
Mais vous, c'est admirable ce que vous faites. Là. Juste autour de nous, on voit premièrement des petites maisons que vous êtes en train de construire pour la communauté. C'est vraiment admirable. Et vous avez beaucoup de projets. C'est quoi les prochains projets?
Ben, il va y en avoir d'autres, probablement. Là, on en a 15 petits chalets 4 saisons, mais ça va être des logements sociaux. Peut-être en partie pour ceux qui ont la capacité de les acheter, parce qu'ils ne sont pas nécessairement très, très dispendieux. Je pense que c'est possible de les acheter. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir propriétaires, ils pourraient l'être. Là.
Expliquez-moi cette question, parce qu'on m'a expliqué les maisons, on a vu un peu sur nos communautés ici, que les maisons étaient délabrées. Mais on a expliqué, c'est parce que les gens n'étaient pas nécessairement, pouvaient pas nécessairement devenir propriétaires. C'est pour ça?
Oui, effectivement, c'est vrai. À cause de la loi sur les Indiens, encore une fois, qui nous interdit d'être propriétaires du terrain, mais aussi de la maison. Donc, c'est la propriété du fédéral.
Donc, mais les petits chalets que vous construisez, vous dites qu'on peut quand même éventuellement devenir propriétaire.
Oui, pour le bâtisse, oui, mais pas le terrain.
Pas pour le terrain,
non,
OK.
C'est ça, exact. Mais on travaille sur un projet là, où les gens pourraient devenir propriétaires à part entière.
Et ça, c'est une nouvelle loi ou c'est une nouvelle législation?
Non, c'est pas une nouvelle loi. Nous, on défie la loi finalement.
Ah, OK, ça, c'est intéressant.
On défie la loi, puis on dit au gouvernement, c'est, écoutez, traînez-nous à la cour.
On est sur notre territoire.
On est sur notre territoire. On n'a jamais cédé aucun poste de notre territoire, comme je le disais tantôt. Prouvez-nous que c'est à vous.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, vous prenez les initiatives pour dire aux gens, mais vous pouvez tout à fait être propriétaire.
On leur dit, on leur propose quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement terminé. On y travaille encore. C'est quand même de longue haleine. Si on veut préparer quelque chose de cette nature-là, il y a tout l'aspect juridique, les responsabilités. C'est nouveau pour nous. Parce qu'on n'était pas nécessairement propriétaire antérieurement d'aucune de ces maisonnées-là, donc c'est nouveau. Donc, on essaie d'avoir un juste milieu où que les gens vont être responsables de leur maisonnée-là.
Donc, pour les construire, vous avez demandé permis à personne?
Non.
J'adore. J'adore.
Pas du tout, non.
C'est génial.
Non, non. Nous, on se dit, on s'auto-gouverne. On est à mesure de gérer nos fonds de façon responsable et on est à mesure de faire nos propres projets sans nécessairement demander la permission aux deux gouvernements.
Parce que vous savez, de toute façon, si vous demandiez la permission, ça serait éternel, la réponse. Et
ben, écoutez, il y a tellement de promesses qui se font, mais très peu d'entre eux sont comme réalisés ou bien perdurent dans le temps pour se réaliser. Donc, nous, on n'attend pas. Là, on n'a pas besoin d'attendre après les autres. On est capable de se faire puis se débrouiller par nous-mêmes. Là.
Ah, c'est génial.
C'est ce qu'on fait.
Et donc, vous me racontiez tout à l'heure que vous voulez faire d'autres maisons ici, dans la baie.
Oui, absolument. Puis, il y a d'autres projets comme ça. Il y a même un projet économique, puis de tourisme. On a un plan quand même d'aménagement du territoire, puis qui va être autour du lac ici. Ça, c'est un projet économique pour notre communauté, là, qui va bénéficier à la communauté.
Excellent. Excellente idée. Puis dites-moi juste, avant de se quitter, parce qu'on on a tellement de questions, ça pourrait durer toute la journée, toute la vie. On est allé hier dans la communauté de Kitisak.
Kitisakik.
Et on a vu un barrage.
Oui.
Puis on nous a expliqué que c'est une autre aberration que les gens n'ont pas d'électricité, alors qu'il y a un barrage juste à côté.
Absolument. Puis ça, ça date pas d'hier quand même, ce barrage-là. Les gens n'ont pas été compensés, hein. La communauté de Kitisakik n'a pas eu aucune scène, n'a pas été consultée, n'a pas été accommodée ni compensée pour leurs pertes.
Et ça, c'est Hydro-Québec?
Ça, c'est avant Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec, oui, effectivement, c'est ça. Donc, pour donner quelque chose, c'est peut-être dur à entendre, c'est qu'ils retrouvaient des corps, des défunts là, qui remontaient à la surface là, dans certains endroits là. Parce qu'il y a eu un ennoiement du territoire. Parce que, comprenez qu'à une certaine époque, ça n'existait pas des pelles, là, comme on connaît aujourd'hui. Ils étaient moins en profondeur quand ils enterraient les corps. Donc, quand il y a eu ce grand ennoiement-là, il y a eu des corps qui ont remonté à la surface, là, qui dérivaient dans le réservoir. Ça, c'est pas connu. C'est mal connu. Ou c'est caché. Donc, c'est des histoires comme ça. Dans d'autres endroits aussi, je sais que ça s'est passé comme ça, dans plusieurs endroits au Québec, mais aussi ailleurs au pays.
Mais c'est inconcevable que dans un pays où il peut faire moins 40 en hiver, on a un barrage, on a toutes les ressources, puis les gens n'ont pas d'électricité ni d'eau chaude.
Ça, non, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'eau chaude, puis c'est tout manuellement. Puis ils sont obligés d'aller chercher des génératrices, des petites génératrices pour...
Qui coûtent cher.
Oui, ils sont dispendieux, puis ils n'ont pas d'aide bien non plus là-dessus. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de la communauté, du leadership à Kitisakik, de faire des changements. Là. Donc, c'est long, puis c'est très, très long. Hydro-Québec, autant que le gouvernement du Québec, le fédéral, semble adopter le statu quo, là, ou l'immobilisme tout ça, dans tout ça.
ça ne les intéresse pas. Comme ils disent dans la loi sur les Indiens, il fallait régler le problème indien.
Oui, ça, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. C'est pas pour eux. Pas pour nous, on est un problème, on n'est pas... On ne semble pas être humain à leurs yeux.
Mais vous faites très bien de prendre les choses entre vos mains
et d'aller devant. On n'a pas le choix, on ne laisse pas le choix. C'est, malgré certaines opinions très dures envers nous de certains citoyens canadiens ou québécois, là, vous savez, si vous voyez les commentaires souvent racistes là, dans les choses qu'on fait, ben, qu'on essaie de faire... vous avez des certains nombres de personnes qui sont très dures envers les Premières Nations.
Mais ça, ça c'est leur problème, j'allais dire.
Oui, mais vous faites ce que vous avez à faire. Ça affecte notre morale aussi, hein, de voir, d'entendre ce genre de messages haineux. Là, c'est pas,
Non, mais ce que je veux dire, ça leur appartient.
Oui.
C'est sûr que c'est dur, mais c'est bien que ça ne vous empêche pas de faire des choses. C'est ça que je veux
non,
dire.
Non, on ne s'arrête pas nécessairement à ça.
C'est ça, qui est bien. Merci beaucoup, merci infiniment. Et j'aimerais pouvoir revenir pour reposer
si vous
d'autres questions.
C'est vous, c'est nous, on va être encore ici.
Merci
donc,
beaucoup. Puis ouais. Bonne continuation, surtout.
Ah ben oui, il faut continuer. Ça, on n'a pas le choix. Hein. On a beaucoup de jeunes ici, donc il faut vraiment penser à eux. Là.
Puis heureusement qu'ils ont justement des modèles comme vous.
Ah ben, je ne suis pas tout seul.
Heureusement. Tant mieux, heureusement.